Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien, au sommaire de cette émission, on va parler
de polars.
De polars, oui, évidemment. Mais voilà, des polars très très différents dans le style, voire dans l'objet littéraire même. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques minutes Jean-Marc Laherrère pour une de ses chroniques qui intervient, on va dire maintenant, on peut dire totalement régulièrement. Donc Jacques, tu vas commencer par une... Est-ce qu'on peut appeler ça une BD ?
Eh ben, en fait, non. C'est pas vraiment une BD, c'est pas non plus un roman graphique, c'est pas non plus un manga comme le nom pourrait le laisser croire, donc le nom, je vais vous le dire maintenant, c'est Petite Coupure à Shioguni. L'auteur en est Florent Chavoué.
Non, mais il ne prend pas l'accent asiatique pour dire voilà. Florent Chavoué.
Et c'est paru aux éditions Piquier. Donc, comme vous en doutez, les éditions Piquier, donc, en fait, ça va se passer en Extrême-Orient et plus précisément au Japon.
Oui, pour rappeler, peut-être les auditeurs ne savent pas que les éditions
sont spécialisées dans la littérature.
Tout type de littérature extrême-orientale,
exactement.
Quel beau cœur.
Donc je disais, c'est ni une BD ni un roman graphique, en tous les cas, c'est un superbe objet, couverture cartonnée épaisse, 184 pages quand même, et ça se passe donc, je disais, au Japon, à Shioguni. Alors je vais vous dire tout de suite le pitch, c'est l'auteur lui-même qui l'a rédigé, donc je vais pas me gêner, je vais le reprendre tel quel, comme ça au moins vous êtes sûr que je le trahirai pas. Kenji avait emprunté de l'argent à des gens qui n'étaient pas une banque pour ouvrir un restaurant qui n'avait pas de clients. Forcément, quand les prêteurs sont revenus, ce n'était pas pour goûter les plats. Et on va tomber donc dans une espèce de polar bizarroïde avec, of course, des yakuza. Les yakuza, c'est les mafieux locaux, je pense que vous le savez. Il y aura des flics, il y aura une belle jeune fille qui n'est pas vraiment tout à fait une femme fatale. Il va y avoir des bastons, des couteaux, des flingues, une enquête. Bref, en fait, c'est un polar. Il dit que ça n'en est pas un, mais je pense que c'en est un quand même. Alors tout commence dans un restaurant, on a compris, un restaurant spécialisé dans le yakitori. Alors les yakitori, c'est les célèbres petites brochettes japonaises qui se mangent pratiquement en une bouchée, comme on trouve, et c'est pas du tout une truc de San Antonio, bien évidemment, les brochettes japonaises, ça n'a rien à voir. L'histoire en elle-même est plutôt sympa, plutôt même bien construite, mais c'est la partie illustration et dessin qui font tout le sel, tout le piquant de ce livre. Alors ne vous attendez pas à des cases, à des bulles bien propres, à la boule et bille, hein. Pas de lignes claires non plus. En fait, de nombreux styles vont venir se mêler, s'entrecroiser en fonction du narrateur ou du moment du récit. Et quand il y a des cases, elles sont rarement rectangulaires. Elles sont plutôt coupées en biais ou imbriquées dans une plus grande, avec des cadrages étonnants, très souvent en contre-plongée ou en très 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 gros plan. Il y a des planches superbes en aquarelle avec un seul dessin sur la page, souvent sans texte, et pourtant c'est très parlant, c'est très fort. On a aussi, tout au long du récit intercalé, le carnet de notes du flic qui enquête. Alors c'est un carnet où il fait des petits collages dessus, des indices qu'il récupère, et puis il fait des petites notes au crayon, au stylo bille, au feutre, un peu de travers, n'importe comment, au fur et à mesure qu'il reçoit les infos. Il y a même un plan du quartier, comme on en trouve souvent même ici, avec au dos plein de pubs pour les commerçants du coin. Il y a des extraits de journaux et tout ça. C'est reproduit, dessiné à la main, à l'encre, à l'aquarelle, à la craie grasse, par Florent Chavoué.
Il a tout fait, quoi. Le scénario, parce que les couleurs sont absolument extraordinaires.
Il a fait les couleurs, il a fait le lettrage, enfin vraiment, il a fait la mise en page. Enfin, c'est un ouvrage magnifique. Même le lettrage est vraiment très original, tantôt à l'encre, tantôt à la plume, tantôt à la craie grasse ou au feutre, pour le carnet du flic, etc., ou du faux imprimé. C'est vraiment superbe. Alors, ça parle de petites coupures, donc les petites coupures, évidemment, c'est de la monnaie, mais il va y en avoir aussi de plus grosses coupures, vu la taille des couteaux utilisés.
Mais juste pour la cuisine.
Exactement, mais ça ne va pas couper que les poissons.
Et les yakitori.
Et les yakitori. Il y a même un tigre qui s'est échappé, qui traîne dans la ville. Et pour, là, c'est un vrai tigre. C'est pas comme le gros matou qu'on a eu en Seine-et-Marne la semaine dernière.
Chat sauvage.
Et en plus, eh ben, c'est très drôle. Il y a même quelques petites phrases, quelques citations. On peut toujours prévenir, il faudra quand même guérir. Ou alors, les arguments, c'est l'excédent de concret qui met tout le monde d'accord. Lesquels arguments sont assénés avec une certaine violence qui met effectivement les gens d'accord. Et ce qui est bien, c'est quand on l'a lu une fois, d'abord pour profiter de l'histoire, on y revient au moins une fois encore, pour cette fois-ci se délecter de tous les petits détails qu'on a ratés ou qu'on a juste aperçus à la première lecture parce qu'on tournait les pages. C'est vraiment très original, très très bien fait, et c'est donc absolument ne pas manquer.
Voilà, et puis on est fin novembre, donc vous allez chez votre libraire, vous en prendrez deux ou trois.
Florent Chavoué, Les petites coupures à Chiot Guni, aux éditions Philippe Piquier, pour 21,50€ et 184 magnifiques pages.
Voilà, donc je finis, on peut toujours penser déjà aux cadeaux de Noël, ça fait des très beaux cadeaux.
Un petit peu de musique qui n'a strictement rien à voir. En fait, je voulais mettre un extrait du dernier album de Neil Young. Et comme il est vraiment très mauvais, je me suis dit qu'on allait passer une de ses vieilles et excellentes chansons, mais interprétées par un autre groupe. Le groupe, c'est Puss and Boots, qui est un des side projects de Norah Jones. C'est donc, je ne traduis pas le nom du groupe, mais en gros, c'est un groupe de filles qui fait de la country avec des bottes, donc. Et donc, c'est constitué de Sarah Dobson, Norah Jones et Catherine Popper. Le titre de Neil Young, et c'est un de ses plus beaux, c'est Down by the River. Et c'est Norah Jones qui fait la guitare électrique.
Que nous accueillons.
Interprété donc par Mrs. Jones, comme disait Bob Dylan.
Voilà, par Norah Jones, que nous accueillons. Jean-Marc Lahérer, bonsoir.
Bonsoir.
Et ravi de vous retrouver. Donc, je crois que ce soir, vous allez nous aider à faire une chose magnifique, c'est grossir le ciel.
Voilà, Je ne suis pas tout à fait certain d'ailleurs d'avoir compris le lien entre le titre et le roman, mais ce n'est pas grave parce que le roman est très très bon.
Et le titre est intéressant, enfin le titre, c'est accrocheur quoi quand même.
Voilà, exactement. Donc c'est Grossir le ciel, c'est un roman français écrit par Franck Bouys, que je ne connaissais pas auparavant, mais qui a écrit d'autres romans, visiblement, et qui a été publié à la Manufacture des Livres. Alors c'est un roman très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est un polar, déjà parce qu'il est très bien construit. Où est-on ? On se retrouve aux Doges. Les Doges, c'est un lieu dit complètement perdu au milieu des Cévennes. C'est une ferme dans laquelle vit Gus. Gus, c'est un bonhomme célibataire qui a 40 et 50 ans, on va dire. Et il s'occupe de ses bêtes, des vaches. Il s'occupe de la ferme avec son chien Mars. Une fois par semaine, à peu près, il va au village avec son tracteur.
Il ne doit pas y arriver vite. Hein.
Non, il n'y va pas très vite, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas trop, trop loin. Et puis, quand il y va, il a que ça à faire de la journée. Et puis il boit un coup au café, il feuillette les journaux et il rentre.
Et il fait les courses.
Et il fait les courses pour la semaine. Et de temps en temps, il discute avec Abel. C'est la seule personne avec qui il discute quand il ne passe pas au village une fois par semaine. Et Abel, c'est un autre célibataire qui vit dans la ferme d'à côté. Et en fait, on ne peut pas dire non plus que ce soit des grandes discussions. C'est-à-dire qu'ils s'entraident quand c'est absolument nécessaire. Et quand la solitude est vraiment trop trop lourde, ben ils passent chez l'autre et ils ouvrent une ou deux bouteilles de rouge et ils boivent ensemble. Et tout ça, il semblerait que ça va jamais changer, jusqu'à un matin d'hiver où Gus se trouve à l'affût pour chasser. Il entend des coups de feu et des cris du côté de chez Abel, et puis plus rien. Et puis c'est à partir de là qu'il va commencer à se poser des questions, soupçonner des choses chez Abel, et on va rentrer dans un polar et pas dans une chronique campagnarde. Mmh. Voilà, tout part de là. Donc l'histoire à partir de là, elle est très bien mise en place, et puis les doutes, les mensonges, la montée de la folie, tout ça c'est très bien écrit avec une lenteur qui est une lenteur bien entendu qui va très bien avec les activités de ces deux hommes hein, qui sont répétitives et qui sont liées à la nature. Et il y a toute cette partie qui pour l'amateur de polar, le mystère, tout ça c'est très très bien fait. Donc déjà c'est pas mal. Mais après, il y a quand même deux choses qui font de ce polar un polar un peu à part dans le paysage français. C'est que d'habitude, quand on parle de polar qui se passe dans des espaces un peu grands où la nature peut être dure, où la nature peut être presque meurtrière parfois, parce que l'hiver, si on se laisse prendre à l'extérieur, ça peut être dangereux. On pense à qui ? On pense à Gallmeister et aux Américains.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le shérif de Craig Johnson qui se prend dans les tornades d'hiver.
Exactement.
Ou le Montana,
exactement.
Quoi.
C'est le Montana, c'est le Wyoming, c'est... Eh bien non, là c'est dans les Cévennes, c'est un Français qui écrit, et ça tient tout à fait la comparaison. Donc on se demande, est-ce qu'on a une renaissance de cette littérature un peu de la campagne des espaces en France ? Parce qu'on a vu quand même Nicolas Mathieu...
Avec Aux animaux la guerre.
Exactement, qui était dans les Vosges, si je me souviens bien.
Tout à fait, oui.
Là, on retrouve Franck Bouys et on se dit qu'en fait, depuis la disparition de Pierre Magnan, on n'avait pas souvent vu le polar s'intéresser d'aussi près à la campagne et encore plus rarement prendre des personnages qui sont non pas des marginaux ou des flicotes, mais juste des travailleurs manuels. Ça aussi, c'est une spécificité souvent américaine.
Tout à fait, oui.
De nous parler de gens qui ont un travail normal et puis qui sont confrontés à des situations, bien sûr, qui relèvent du polar. Et là, c'est très bien fait, parce que la partie aussi du travail manuel, journalier, fait par Gus et par Abel, il est très très bien rendu. Et puis voilà, il y a ces deux personnages dont il faut parler, parce qu'Abel et Gus, ce qui est très bien décrit et dépeint, c'est leur solitude. C'est le travail quotidien, c'est la répétitivité, ce sont les quelques joies quand même, parce qu'il y en a, il y a de la joie, il y a des souffrances, c'est des personnages qui sont durs, qui sont bien sûr assez rugueux, qui sont aussi rugueux que le rouge qu'ils boivent, parce qu'on se doute bien que c'est pas des grands millésimes bordelais qu'ils ouvrent quand ils s'invitent dans l'autre, voilà,
la
bien épaisse qui qui tient encore.
Qui tâche les verres.
Oui. Puis ils sont très très bien décrits parce qu'ils ne sont pas idéalisés. Ce n'est pas des anges. Ils ne sont pas pleins non plus, finalement. On les décrit dans leur travail, dans leur quotidien. Ils sont capables de grandeur, ils sont capables d'humour. Alors, un humour un peu rude et un peu sec, mais un peu d'humour. Mais ils sont aussi capables de bêtises, de violence, de méchanceté, de folie. Enfin, c'est des gens, quoi. C'est des hommes. Et ils sont des hommes dans cette caractéristique particulière, que c'est des hommes tout seuls, des célibataires. Il n'y a pas de femmes dans ce milieu. Et ça, c'est très, très bien rendu. C'est d'autant mieux rendu que l'écriture est vraiment au diapason de tout ça. Elle est souvent sèche et rugueuse, mais elle est capable d'être lyrique quand il décrit quand même un lever de soleil, parce que cette nature rude, elle peut être avoir des flashs comme ça, des éclairs de beauté qui sont très bien dépeints. Donc ça donne un roman enthousiasmant qui s'appelle Grossir le ciel.
Et il y a un personnage aussi qui intervient de façon très, enfin sans vraiment le faire exprès, c'est l'abbé Pierre.
Oui. Alors oui, ça tourne autour de la disparition de l'abbé Pierre, effectivement. Il y est pour rien, mais c'est comme ce pauvre Gus, sa télé ne capte qu'une chaîne, et bien il suit la mort de l'abbé Pierre, mais c'est quelqu'un qui l'a marqué. On voit que, bon voilà, il y a une ou deux figures qui l'ont marqué, après il se tient pas franchement au courant de ce qui se passe autour de lui, à part dans la ferme d'Abel, et puis avec ses vaches dans son étable.
Et c'est vrai que vous avez cité Pierre Magnan, moi je pense à quelqu'un d'autre, parce qu'on a parlé des Vosges et Pierre Pelot aussi. Oui, il y a des personnages comme ça qui ressemblent à Abel, qui ressemblent dans la littérature de Pierre Pelot. Et effectivement, vous avez raison, il y a peut-être une renaissance, parce que moi je pense à un autre auteur qui plonge quand même dans la France profonde, c'est Olivier Bordassar. Dernier désir, ça se passe autour d'une petite rivière, d'un petit canal. Oui. Et puis il y avait la France tranquille aussi, qui était dans la France profonde.
Oui, mais plutôt la petite ville, là. Voilà.
Ouais, c'est vrai. Mais
Pierre Magnan aussi tourne autour des petites villes.
Voilà, oui, Sisteron, Gap.
Oui, oui.
Mais c'est vrai que, oui, on a toujours pensé, enfin, pendant des années, le polar et le roman noir ont été urbains, et c'est vrai qu'avec les merveilleuses collections de Gallmeister, on a découvert le nature writing.
Voilà.
Et c'est vrai que ça nous enthousiasme beaucoup, et que si ça arrive en France, on en sera d'autant plus content.
Et c'est vrai que ce roman,
c'est pas un effet de mode, je trouve, c'est des vrais très bons romans. C'est pas juste quelqu'un qui s'est dit, tiens, les Américains, ils écrivent sur la nature, on va faire pareil. Non,
tiens, on va écrire français. Un polar islandais.
Voilà, on va se faire un Gallmeister français, mais c'est pas ça.
Non, tout à fait, oui.
C'est vraiment à découvrir.
Non, c'est simplement la coïncidence que deux ou trois romans tournent autour de ça en 2014, quoi.
Voilà.
Et surtout, qu'ils soient d'aussi bonne qualité et de genres très très différents, parce que la planète polaire est très protéiforme et les écritures sont très très différentes.
Oui, exactement. Exactement. Là, c'est vraiment... Alors, je n'ai pas lu ce qu'il avait écrit avant. Je crois qu'il a écrit d'autres romans avant Frank Buys qui n'étaient pas des polars. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il avait fait avant de venir chez la Manufacture des Livres.
Voilà, on va rappeler.
Qui est aussi un éditeur quelques nouveaux romanciers français qui sont très intéressants.
Avec François
Médeline. François Médeline, Marie Van Moor, qui était quand même un roman qui était aussi très intéressant.
Oui.
La petite Louve, c'est ça ?
Oui, la petite Louve.
Voilà, notre émission est bientôt terminée.
Alors, tout au moins
la première partie. Jean-Marc, merci beaucoup.
Merci,
on espère à très bientôt. Et puis, de bonnes nouvelles lectures. Merci beaucoup, Jean-Marc.
À bientôt. Bonne continuation. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et voilà, on se retrouve.